Chapitre 5. Le beau bonnet à rosette ponceau a déjà passé la moitié du jour sur la tête de Madame Justine. Les gens de la noce sont allés à l'église, ils en sont revenus, le dîner tire à sa fin, le jour baisse. La jeune mariée n'a pas encore quitté son voile et sa couronne, car elle se sait jolie sous ce blanc nuage, et un jour, un seul jour dans la vie, est trop court pour jouir d'une parure qui sied si bien. Le vin de Neuchâtel pétille dans les verres. Quelques bouteilles poudreuses de vieux corteil rouge viennent de faire leur apparition. Ce nectar, au bouquet étrange autant qu'exquis, veut être dégusté avec recueillement. On y trempe les lèvres une première fois en silence, mais aussitôt, un feu soudain brille dans les yeux et court dans les veines, l'éloquence s'allume, les discours partent comme des fusées. Juste avait déjà bu à la santé des époux. Il avait parlé simplement et raisonnablement, comme il faisait toute chose. Mais voici que Charles Plaisance se lève et, le verre en main, porte un toast à la Brévine. « Mesdames, dit-il, messieurs, depuis quelques jours seulement je connais ce pays, mais son charme tout particulier m'a déjà conquis et j'aurai grand-peine, je le prévois, à m'y arracher. Cette robuste et simple nature, vos mœurs façonnées sur elle, votre hospitalité montagnarde, votre saine activité, l'air vif et libre qu'on respire ici, après m'avoir étonné et séduit, m'ont fortifié, sinon dans mes muscles, c'eût été superflu, du moins dans ma volonté, et j'en avais grand besoin. C'est donc avec reconnaissance que je bois à la Brévine en lui souhaitant pour l'avenir toutes les prospérités qu'elle mérite. Et que le ciel la garde des chemins de fer. » Charles se rassit au milieu des applaudissements. « Ce que c'est que de nous » murmura-t-il en se penchant vers Juste. « Je m'étais bien juré de ne pas faire de discours. La faute en est à ce cortaillot de ton père. Me voilà couvert de ridicule pour le reste de mes jours. »« Rassure-toi, » dit Juste en riant, « ton speech ne sera pas publié. Mais voyons, Charles, est-ce sérieux ce que tu nous as dit là ? Sais-tu bien que rien ne pouvait me réjouir davantage ?»« Mon cher, » fit Charles en haussant les épaules d'un air indifférent pour cacher une émotion très sincère. « Les braves gens que j'ai vus ici m'ont fait honte. Il semble que dans ce pays, il n'y ait pas de place pour un flâneur. Je vais essayer de prendre la vie au sérieux pendant quelque temps. Ce sera toujours une nouvelle expérience et si elle échoue, je me consolerai en écrivant mes mémoires pour l'instruction des siècles futurs et pour servir de document à l'histoire de la flânerie au XIXe siècle. » « Fort bien, dit Juste, et tu annonceras ta conversion à certaines jeunes personnes. Comme l'expérience te semblera ennuyeuse d'abord, propose-lui une association. » Charles sourit, pensa au joli bracelet de Marcasside et trouva que son ami avait des idées raisonnables et pratiques. Le bal devait commencer quand la nuit serait close. En attendant, les convives sortirent, bras dessous, pour se rafraîchir un peu en faisant une petite promenade. Le ciel était pur, le couchant aux teintes liquides et irisées faisait songer à des portes d'opale. Une étoile venait d'allumer sa petite lampe au bord de la montagne et regardait en bas dans la vallée où le lac aux eaux profondes lui servait de miroir. Peu à peu, s'assombrissaient les profondeurs cristallines du ciel. Son vert pâle et léger, encore tout imprégné de lumière, s'éteignit doucement dans les tons froids de la nuit. Mais, aussitôt, une lueur d'argent monta derrière les sapins, s'élargit comme un grand éventail qu'on ouvre, et la lune parut lentement. On eût dit un signal, car l'instant même, deux grands feux s'allumèrent au bord du lac, et les notes pénétrantes d'un violon se firent entendre dans le pré où l'on devait danser. Deux joueurs d'accordéon parurent. Ils venaient chercher les gens du bal. Le cortège se forma dans la cour. Le marié et la mariée en prirent la tête et chacun s'arrangea derrière eux comme il put. Seule, Joyeuse resta sur la porte, regardant d'un air désappointé et perplexe vers le sentier. Étienne lui gardait-il rancune? Ne viendrait-il pas? « Acceptez-moi pour cavalier en attendant mieux, » lui dit Juste qu'il se trouvait près d'elle. Joyeuse rougit de se voir deviner et prit sans lever les yeux le bras qu'il lui offrait. C'était la première fois qu'elle marchait à ses côtés depuis ce soir d'hiver où juste Renaud l'avait soutenue toute tremblante et que, d'un regard furtif, elle avait suivi la silhouette noire de son père qui disparaissait dans la nuit. C'est alors qu'elle avait découvert avec trouble et confusion que la moindre marque de bienveillance de la part de Juste lui était plus chère que tous les trésors du monde. Il semble que ses souvenirs auraient dû se presser dans la mémoire de Joyeuse, tandis que la jeune fille, au bras de son cavalier, la tête et les épaules couvertes d'un châle léger de laine blanche, suivait lentement les autres couples. Cependant, elle n'accorda qu'une pensée distraite à ces feuilles d'automne qui jonchaient un passé déjà lointain et que le souffle léger de l'occasion faisait tourbillonner autour d'elle. « Comment ai-je pu jamais être aussi folle ?» se dit Joyeuse. Ses pensées allaient avec son cœur à la rencontre d'Étienne. « Votre grand-père ne nous accompagne pas ?» lui demanda Juste. « Il viendra plus tard jeter un coup d'œil à la danse quand nous serons bien en train. L'air du soir est trop froid pour lui. » Elle songea au vieillard dont le plus cher désir, elle le savait bien, était de la voir l'heureuse femme d'Étienne. Elle se demanda comment elle avait pu hésiter si longtemps, épuiser la patience d'un honnête garçon qu'il aimait et peut-être le détacher d'elle. « Quand il parlera de nouveau, se dit Cécile, j'aurai une réponse toute prête cette fois. » Mais la question devait se faire attendre. « Voilà qui est romantique au possible !» s'écria Charles en regardant autour de lui. « On dirait une idylle allemande dans un clair de lune lamartinien. Ça manque de nénuphar, mais votre lac est déjà bien joli comme cela et l'on ne saurait tout avoir. » La prairie, baignée d'une lumière vaporeuse, le ciel clair où la lune, maintenant dans son plein, brillait comme un disque de transparent ivoire, le profil sévère de la montagne et le vague scintillement du lac noir à ses pieds, les formes légères, les robes flottantes qui glissaient sur l'herbe et ces deux grands feux aux rouges étincelles, à la flamme vive devant laquelle passaient et repassaient des ombres affairées, cet ensemble, à la fois mystérieux et animé, appelait et chassait tour à tour la rêverie. Le prélude d'une valse rassembla bientôt les danseurs. « Ah !» soupira Charles pour rompre ce beau silence. « Il faudrait quelque flûte enchantée ou le violon de Paganini. »« Bah, dansons. Cela nous rendra supportables ces prosaïques accordéons. » Il chercha Joyeuse, mais elle était déjà au bras d'un valseur quelconque. Il se dirigea alors vers le pittoresque bivouac où Madame Justine surveillait les feux tandis que son mari rassemblait des tisons autour d'une vaste chaudière pleine de vin épicé. La servante de la ferme, préposée au département des verres, les alignait, dûment rincés et frottés, sur une grande nappe étendue à terre. Des corbeilles de bricelets et de pain d'épices en tenaient les quatre coins. Une montagne de galettes s'élevait au milieu. Un peu plus loin, une autre femme pliait soigneusement les châles que les danseuses avaient jetés sur l'herbe pour les y reprendre, la valse est finie. Charles s'assit sur une borne qui marquait la limite du pré. « Quel charmant coup d'œil » fit-il en se tournant vers la fermière. « Avouez, Madame Renaud, que votre belle-fille a eu là, tout simplement, une idée sublime. » « Pourvu que personne n'attrape la mort dans un refroidissement !» répondit-elle en hochant la tête d'un air soucieux. « J'espère qu'ils auront tous les siens de venir prendre du vin chaud après avoir dansé. Mais nous aurons plus de chance que de mérite si nous en réchappons sans clocherie. Heureusement que le fun souffle ce soir. » Un vent sec et brûlant passait en effet à grandes bouffées, chassant l'humidité de la nuit. Sous ses violents coups d'aile, la flamme s'inclinait, puis se redressait plus brillante, tordant ses rouges spirales au-dessus des tisons. Le caprice de ses lueurs voltigeantes éclairait soudainement tout un côté de la prairie. On voyait paraître en pleine lumière une jeune fille et son danseur inclinés l'un vers l'autre. Mais ces deux figures, un instant entrevues, s'éloignaient en tournoyant et n'étaient bientôt plus que deux formes vagues et mouvantes dans un rayon de lune. Charles regardait le lac, dont les eaux limpides, quoique sombres, étaient d'un noir clair pareil à du jais. Il s'y allumait parfois comme des éclairs d'épée, des reflets bleus et menaçants d'acier poli. Votre lac, dit Charles, n'a pas une physionomie rassurante. Je l'ai vu en plein soleil, avec un ciel de printemps au-dessus. Même alors, il n'était pas gai. Ce n'est point un lac d'idylle. Il a quelque chose de tragique, on dirait qu'il garde un secret terrible dont le souvenir l'empêche de sourire. N'a-t-il pas d'histoire ? Si la légende authentique n'existe pas, on devrait l'inventer. Pour inventer, je ne suis pas fort, dit Isaac Renaud. Mais il y a l'histoire, telle qu'on se la passe chez nous, de grand-père en petit-fils. C'est moi qui la raconterai aux marmots de Caroline quand je les tiendrai sur mes genoux. En attendant, fit Charles, dites-la-moi. Ah, voilà la valse finie. Des verres, commanda Madame Renaud en se penchant au-dessus de la chaudière où le vin mijotait avec un petit glouglou. Elle s'arma pour y puiser d'une grande poche d'argent, tandis que Charles, qui avait sauté lestement sur ses pieds, lui présentait un plateau chargé de verres. Le chaud liquide fit monter dans l'air un fort arôme d'épices. La montagne de galettes fut démolie en un instant et des groupes se formèrent autour du feu. Les garçons apportèrent les châles de leurs danseuses et plus d'un bras profita de l'occasion pour s'attarder autour de quelques robustes corsages. Les plaisanteries et les rires se croisaient, chacun était joyeux, sauf joyeuse. Étienne était arrivé cependant, il s'était excusé de son retard et l'avait engagé pour la valse suivante. Mais son ton était froid et Cécile devina que son visage était triste, quoique la clarté mobile du feu ne lui permît pas de bien le voir. Ah, qu'il se dépêcha de parler et tout s'expliquerait vite. Mais il restait silencieux. Quand le danseur de Cécile vint la chercher pour la polka, Étienne détourna la tête et ne sembla pas même voir qu'elle s'éloignait. Le cœur bien gros, elle fit un tour ou deux, puis se plaignit d'avoir mal aux pieds et vint s'asseoir sous l'égide de Madame Justine. Charles Plaisance, toujours juché sur sa borne, les pieds allongés devant les tisons, au risque de griller ses semelles, écoutait l'histoire du lac des Taillères, tout en suivant des yeux le tourbillon des danseurs, dont le cercle mouvant sortait de l'ombre et y rentrait tour à tour. « Or donc, disait le fermier, c'était en l'an 1500 ou à peu près. » Personne ne sait la date exacte, car tous les papiers relatifs à la chose ont été détruits dans un incendie des moulins. Figurez-vous qu'en face de nous, là où l'eau noire s'étend à présent, était une belle forêt, traversée par un de ces ruisseaux, moitié naturel, moitié creusé de main, qu'on appelle chez nous des biais. Le fond de la vallée était assez marécageux par endroits, mais de lacs ou même d'étangs, pas l'ombre. Un beau soir, le fils à Jean Técalame, un des premiers colons de Parisis et l'ancêtre de ma femme, se mit en route pour la pêche aux écrevisses avec son filet et deux torches de résine. Il avait l'intention de battre le biais comme il faut et de passer à cette besogne une bonne partie de la nuit, puis de dormir jusqu'au matin dans une cabane que les chercheurs de pois avaient bâtie au milieu de la forêt. Il allait entrer dans le bois quand il s'entendit appeler. C'était une bergère qui courait après lui de toutes ses jambes et de tout son souffle. Elle lui prend les mains et lui raconte qu'il y a de la sorcellerie dans le bois, ou bien qu'un jugement de Dieu s'y prépare, que la terre se fend, qu'on entend par moments un drôle de bruit, comme un bouillonnement sourd, que toute la journée, les vaches ont paru inquiètes et qu'enfin, le soir, elles se sont sauvées en galopant comme des folles, la queue en l'air. Le fils argenté n'était pas un capon. Il se mit à rire en disant à la bergère que si ces vaches n'avaient pas des sciences et prenaient la fuite à propos de rien, il se garderait de les imiter, qu'il camberait les fentes et que le bouillonnement de 36 000 marmites ne lui faisait pas peur. Elle pleurait. Il lui prit le menton en l'appelant « petite folle ». Il s'éloigna et avait déjà le pied dans le sentier du bois quand il entendit la bergère crier de nouveau. Mais cette fois-ci, elle l'appelait à son aide en poussant des gémissements. Un peu impatienté, il revint. Elle était toute pâle et des larmes coulaient 4 à 4 sur ses joues. Elle s'était heurté le pied, disait-elle, contre une pierre et elle avait bien sûr quelque chose de cassé car la cheville lui faisait grand mal au point de l'empêcher de se tenir debout. Comment retournerait-elle à la maison et ses vaches, qui les ramènerait ? Le fils argenté, quoiqu'un peu brusque, avait bon cœur. Il commença par la gronder de sa maladresse, puis la prit dans ses bras et la porta jusque chez elle en poussant le troupeau devant lui. Dans ce temps, les maisons étaient clairsemées. La bergère demeurait fort loin et le fils agenté dut se reposer plusieurs fois en chemin, bien qu'il fût un solide gaillard. Enfin, ils arrivèrent. On lui fit grand accueil et remerciement. Il fut obligé, pour contenter ses bonnes gens, de prendre un verre de vin, peut-être deux. Bref, il se dit que les écrevisses pouvaient attendre et prolongea si bien la veillée qu'on lui offrit un lit sur le foin, car il était trop tard pour retourner chez lui. Le matin, il sortit de bonne heure et vint dans la cour. Il faut vous dire que la maison de la bergère était haut perchée sur la pente et dominait le fond du vallon. Le fils agenté s'arrête, se frotte les yeux, crie au miracle. On arrive et voilà toute une maisonnée de gens bien ébahis. À leurs pieds, là où les sapins se dressaient la veille, un lac, ou plutôt deux petits lacs jumeaux, séparés par une étroite bande, s'étendaient, tranquilles, comme s'ils avaient toujours été là. Un affaissement des terrains, peut-être une secousse de tremblement de terre, avait ouvert ces terribles entonnoirs où la forêt s'était engloutie. « Si j'avais passé la nuit dans la cabane des chercheurs de pois, se dit le fils agenté, où serais-je à présent ?» Et voici que la bergère s'avance, non pas clochant d'un pied comme on peut croire, mais aussi alerte qu'une petite chèvre. « Pardonnez-moi, dit-elle en se cachant derrière son tablier, si je vous ai donné la peine de me porter tout le long du chemin. Je n'avais pas plus d'entorse que sur la main, mais je n'ai trouvé que ce moyen pour vous empêcher d'aller au bois. » On dit que le fils agenté fut un peu remué, mais il regretta tout de même ses écrevisses, car dans le biais des taillères, elles étaient plus grosses que partout ailleurs. Ici, le narrateur s'arrêta et Charles se mit à rire à cette conclusion peu dramatique. « Et la bergère, s'il vous plaît ? L'histoire ne dit rien de plus. Vous me feriez inventer avec vos questions. » « C'est décevant, murmura Charles, mais l'imagination peut suppléer à ces lacunes de la tradition. Je vois d'ici la bergère recevant une médaille de sauvetage des mains du comité d'utilité publique. « Ce que vous pourriez voir, interrompit Isaac Renaud, c'est la cime des sapins au fond du lac si vous arrêtiez votre bateau à un jet de pierre du bord par un jour bien calme. Je les ai montrés l'autre jour à Joyeuse. » La jeune fille tressaillit en entendant son nom. « Plaît-il ? » fit-elle en relevant la tête. « À quoi songes-tu donc, Cécile ? Tu as l'air aussi endormie qu'une poule sur son perchoir !» fit vivement Madame Justine. « Pourquoi ne danses-tu pas ?»« Je suis fatiguée, » dit languissamment Joyeuse. Cependant, l'orchestre commençait un air de valse. Étienne, qui s'était tenu jusqu'alors à l'écart, vint chercher Joyeuse pour la danse promise et fut frappé de son air abattu. « Si tu es fatiguée, j'attendrai la prochaine. »« Je ne suis pas fatiguée du tout, » répliqua Cécile en se levant avec vivacité. Elle prit le bras d'Étienne, tandis que Charles souriait et que Madame Justine hochait la tête. « Cette petite a je ne sais quoi de détraqué, » dit-elle. « Elle ressemble à notre vieille horloge qui refuse un jour de sonner et qui frappe le lendemain 79 coups à la file. » Charles pensait. « S'il se boude, ce n'est pas le moyen d'en finir. Je ferai bien de lancer ma dernière batterie. » Et il se leva pour rejoindre les danseurs. Charles Plaisance se trompait. Étienne ne boudait pas, mais il avait un profond chagrin. Cécile se jouait de lui, croyait-il. Elle prenait plaisir à l'attirer, puis elle lui glissait entre les mains. Que signifiait son émoi de la veille et cet embarras, cette crainte d'être surprise, ce refus de répondre par un oui ou un non catégorique ? Étienne aimait Joyeuse, mais il était fier et ne voulait point supplier. Il se tairait quelques mois encore. L'espérance différée rend le cœur malade. Le jeune homme se sentait fort abattu et découragé. Joyeuse ne disait mot. Sa gorge se gonflait par moments d'un gros soupir aussitôt réprimé. Chaque fois qu'Étienne se tournait vers elle, son cœur battait très fort. Elle s'imaginait qu'il allait parler et le mot que la veille elle lui avait refusé palpitait maintenant sur ses lèvres. Au lieu de se joindre à la colonne des danseurs, ils s'écartaient sans y prendre garde et s'arrêtèrent au bord de l'eau. « Mais, dit Étienne en sortant de sa distraction, à quoi pensons-nous donc ? Excuse-moi, Joyeuse, tu vas croire que je cherchais un tête-à-tête. » Son ton était amer. Elle garda le silence. Qu'aurait-elle pu répondre ? Ils se détournèrent lentement, comme à regret. Ce petit coin de prairie où les herbes blanchies par la lune se balançaient mollement, cette clarté laiteuse qui les enveloppait tous deux, et ce vague reflet sur l'eau tranquille, plaisaient mieux à leur tristesse que la bruyante gaieté des danseurs. « Oh !» pensa Cécile, le cœur serré par une subite alarme. « Il ne dira rien. Je l'ai lassé à la fin. Aujourd'hui, il est trop tard. » Elle pencha la tête et ses larmes, longtemps retenues, débordèrent. « Enfin, je vous trouve !» s'écria Charles Plaisance. « Vous ne dansez donc pas ? Cet endroit est charmant et fait tout exprès pour un bout d'entretien que je voudrais avoir avec vous, mademoiselle Joyeuse. » Cécile détourna la tête, essuyant ses pleurs à la hâte. Il s'agit, poursuivit Charles qui n'y allait jamais par quatre chemins, d'une proposition que j'ai faite à Étienne et qu'il refuse obstinément d'accepter. Il y trouverait son avantage pourtant. Aidez-moi donc à le persuader, il vous écoutera mieux que moi. Très surprise, Joyeuse leva ses yeux encore pleins de larmes. Étienne les vit, ses larmes, et sans qu'il comprît la cause de ce chagrin subit, tout son ressentiment se fondit soudain en tendresse. « Je lui ai proposé, continua Charles, de m'accompagner en Italie et d'y faire avec moi un long séjour. Mais il ne veut pas quitter son clocher natal. Mauvaise excuse, n'est-ce pas, car vous n'avez même pas un clocher au nid du fol. » Joyeuse frémit et serra involontairement le bras d'Étienne. Elle crut que la terre se dérobait sous ses pieds. Partir, lui ? Mon Dieu, comment se passerait-elle d'Étienne ? Et tout à coup, un souvenir lui revint. Elle vit, comme dans un éclair, la figure charmante de cette Milanaise dont elle avait un jour trouvé le portrait sur la table de Juste. « Il n'ira pas voir les Italiennes !» se dit-elle. Et elle se dressa avec une résolution soudaine. « Étienne ne partira pas, monsieur » fit-elle en regardant Charles bien en face. « C'est impossible, car nous sommes fiancés. » Il y eut un moment de silence. « Est-ce vrai cette fois ? Dis !» s'écria Étienne en la serrant dans ses bras par un mouvement presque violent. Charles détourna la tête et parut observer très attentivement les deux colonnes de fumée qui montaient du campement vers le ciel. « Oui, c'est vrai !» murmura Joyeuse, qui riait et pleurait à la fois. « Je voulais te le dire hier déjà, mais la mauvaise chance s'en est mêlée. » « Permettez-moi de vous féliciter, » dit Charles, qui crut pouvoir abandonner maintenant ses observations. « Enfin, vous vous êtes entendu. » « Oui, mais il faut avouer, » interrompit Joyeuse avec un léger mouvement de rancune, « que vous avez bien fait votre possible pour nous en empêcher. » Charles la regarda un instant avec un singulier sourire, puis tourna sur ses talons et s'éloigna en sifflant. Juste Renaud le cherchait. « Tout le monde va rentrer, » lui dit-il. « La nuit fraîchit, les feux s'éteignent. Qui sont ces deux-là qui font bande à part ?»« De refiancés, » répondit Charles. « Ils me doivent bien une petite fraction de leur bonheur. J'ai tout au moins hâté le dénouement qui traînait un peu. Mais c'est une besogne ingrate, » poursuivit-il en prenant le bras de son ami. « Je ne fais plus qu'un mariage, le mien, et puis je me retire des affaires. » Quand chacun est content, le moment est venu de se séparer. Ils sont tous heureux ce soir, c'est ainsi que je voudrais toujours laisser mes amis.